Brothers and sisters,
mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la veillée de Noël de la Première Présidence. Nous sommes reconnaissants de cette occasion de nous assembler et de réfléchir à la naissance, à la vie et à la mission de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le président Monson, qui préside cette réunion, m'a demandé de la diriger. Nous adressons nos vœux de Noël les plus chaleureux à chacun de vous et aux gens qui verront cette veillée ultérieurement. Nous saluons la présence de la Première Présidence et de membres du Collège des Douze Apôtres, ainsi que d'autres autorités générales et présidences générales d'auxiliaires. La musique de cette veillée de Noël sera interprété par le chœur du Tabernacle et par l'orchestre de Temple Square, sous la direction de Mac Wilberg et Ryan Murphy, avec Richard Elliott à l'orgue. Le chœur ouvrira la réunion en chantant « Venez tous fidèles ». Après quoi, Marie Ann Cook, première conseillère dans la présidence générale des jeunes filles, fera la prière. Le chœur nous fera ensuite le plaisir de chanter « What child is this ?»
Joyful and
Notre cher Père Céleste, nous venons devant toi avec gratitude pour la bénédiction et l'occasion de célébrer la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ, sa vie, son exemple et le don de son sacrifice expiatoire pour chacun de nous. Nous nous sentons particulièrement honorés ce soir de pouvoir écouter les paroles de notre prophète bien-aimé Thomas Monson. Nous prions pour que nous puissions écouter et prêter attention aux paroles de ces prophètes, pour que nous puissions être bénis personnellement et en tant que famille en cette période sacrée de l'année. Nous sommes aussi reconnaissants pour toutes les personnes qui ont des talents et ont fait l'effort de nous édifier avec la musique de ce soir. Nous prions pour que, tandis que nous écouterons, nous puissions méditer sur le don de notre Sauveur Jésus-Christ et son influence dans notre vie. Nous prions pour que nous puissions être remplis du Saint-Esprit, afin que nous ayons un plus grand désir de vivre et d'aimer et de donner comme Jésus le ferait. Et nous te remercions pour toutes ces choses et pour toutes celles que tu nous as données. C'est notre prière humblement au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you. Merci de cette belle musique. Nous aurons maintenant le plaisir d'écouter Dieter F. Uhrdorf, deuxième conseiller dans la première présidence. Après son discours, j'aurai le plaisir de vous parler. Le chœur chantera ensuite « Petite ville, Bethléem ».
What a wonderful time of the year.
Quelle période merveilleuse de l'année. Quand j'entends la musique, vois les lumières et sens l'air frais, cela me ramène aux nombreuses occasions de ma vie où l'esprit de Noël a réchauffé mon cœur et élevé mon esprit. Comme pour beaucoup d'entre vous, certains des souvenirs de Noël les plus chaleureux et les plus vifs viennent de mon enfance. J'ai grandi dans des conditions modestes, mais mes parents voulaient que Noël soit une période de joie et d'émerveillement pour leurs enfants. Ils ont fait de gros efforts pour que Noël soit une période spéciale pour notre famille. Nous, les enfants, nous fabriquions des cadeaux les uns pour les autres. Je me souviens qu'une année, j'ai fait un dessin pour ma sœur comme cadeau de Noël. Ce n'était pas une œuvre d'art, mais elle l'a considéré comme un trésor. Comme je l'aime d'avoir un J.A.C. Une autre année, mon frère, qui a 12 ans de plus que moi, m'a fait un cadeau précieux. Il avait trouvé un bout de bois dans le parc près de chez nous et l'avait taillé pour en faire un petit couteau. Il était simple, pas du tout recherché, mais comme je chérissais ce cadeau, parce qu'il venait de lui. L'une des grandes joies de Noël n'est-elle pas de voir le bonheur des petits-enfants lorsqu'ils prennent dans leurs mains un cadeau emballé qui n'est que pour eux? En vieillissant, cependant, notre capacité de recevoir des cadeaux avec ces mêmes enthousiasmes et bonnes grâces semble diminuer. Les gens en arrivent parfois même au point de ne plus pouvoir recevoir de cadeaux, ni même de compliments, sans se sentir gêné ou redevable. Ils croient à tort que le seul moyen acceptable de réagir lorsqu'ils reçoivent un cadeau est de donner en retour quelque chose d'une plus grande valeur encore. D'autres ne voient même pas l'importance du cadeau, ne remarquant que son aspect ou sa valeur et ignorant la profonde signification qu'il a pour celui qui donne sincèrement. Cela me rappelle un événement qui eut lieu la dernière nuit de la vie du Sauveur. Il rassembla ses disciples bien-aimés, rompit le pain avec eux et leur donna ses précieuses et dernières instructions. Vous rappelez-vous qu'au cours du repas, Jésus s'est levé de table, a versé de l'eau dans un bassin et s'est mis à laver les pieds des disciples? Quand il est arrivé à Simon-Pierre, le pêcheur refusa en disant « Jamais tu ne me laveras les pieds ». Le Sauveur le reprit gentiment « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Je suis sûr que Pierre pensait avoir de nobles raisons de refuser ce don et sentait qu'il agissait bien. Mais à ce moment-là, il est clair qu'il ne comprenait pas la signification spirituelle de ce que Jésus lui offrait. À Noël, nous parlons beaucoup de donner et nous savons tous qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais je me demande si parfois nous négligeons ou même dénigrons l'importance d'être un bon bénéficiaire. Il y a de nombreuses années, un jour de Noël, une fillette reçut une boîte de belles perles, Son père lui suggéra de confectionner quelque chose pour un des membres de la famille qui était venu à la fête de famille. Le visage de la fillette s'éclaira et elle se mit au travail pour créer ce qu'elle pensait être le cadeau parfait. Elle choisit la personne pour laquelle elle voulait le faire, une tante âgée, avec un visage triste et une personnalité revêche. La fillette se dit, « Peut-être que si je lui fais un bracelet, cela la rendra heureuse. » Elle choisit donc soigneusement chaque perle et fit de son mieux pour confectionner un cadeau spécial pour sa tante. Quand elle eut terminé, elle s'approcha de sa tante, lui donna le bracelet et lui dit qu'elle l'avait confectionné spécialement pour elle. Le silence emplit la pièce lorsque sa tante prit le bracelet entre le pouce et l'index comme si elle tenait des escargots baveux. Elle regarda le cadeau, plissa les yeux, retroussa le nez et laissa retomber le bracelet dans les mains de la fillette. Elle lui tourna alors le dos sans dire un seul mot et commença à parler à quelqu'un d'autre. La fillette rougit d'embarras. Très profondément déçue, elle sortit doucement de la pièce. Ses parents essayèrent de la consoler. Ils essayèrent de lui faire comprendre que son bracelet était magnifique malgré la réaction insensible de sa tante. Mais la fillette n'arrivait pas à chasser sa tristesse chaque fois qu'elle y repensait. Des années ont passé et la fillette, maintenant elle-même tante, se souvient toujours avec un peu de tristesse du jour où son cadeau enfantin fut refusé. Tous les cadeaux qui nous sont faits, particulièrement ceux qui viennent du cœur, sont des occasions de créer et de renforcer des liens d'amour. Lorsque nous sommes des bénéficiaires bons et reconnaissants, nous permettons à notre relation avec le dispensateur du don de s'approfondir. Mais lorsque nous négligeons d'apprécier un cadeau ou même le rejetons, non seulement nous blessons les gens, mais nous nous faisons également du mal. Le Sauveur enseigne qu'à moins que nous ne devenions comme les petits-enfants, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. En regardant le bonheur et l'émerveillement des enfants à cette période de l'année, essayons de redécouvrir et retrouver une caractéristique précieuse et glorieuse des enfants. La capacité de recevoir de bonnes grâces et avec reconnaissance. Le Sauveur est notre exemple parfait, non seulement pour donner généreusement, mais aussi pour recevoir de bonnes grâces, ce qui n'a rien d'étonnant. À Béthanie, vers la fin de son ministère, une femme s'est approchée de lui avec un vase d'albâtre qui renfermait un parfum précieux de grand prix. Elle fut autorisée à lui oindre la tête de ce précieux cadeau. Quelques témoins de la chose furent irrités. Ils dirent, « Quelle perte d'argent! Ce parfum était extrêmement cher. Il aurait pu être vendu et l'argent donné aux pauvres. » Ils ne virent que la valeur marchande du cadeau et absolument pas sa bien plus grande signification spirituelle. Mais le Sauveur comprit le symbole et la manifestation d'amour de ce cadeau, et il le reçut de bonne grâce. Il a dit à ceux qui murmuraient, « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine ? » Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Mes frères et sœurs, quel genre de bénéficiaires sommes-nous? Voyons-nous, comme le Sauveur, les cadeaux comme des manifestations d'amour? De nos jours, le Sauveur a dit que celui qui reçoit tout avec gratitude sera rendu glorieux, et la plénitude de la terre est à lui. J'espère que ce Noël et tous les jours de l'année, nous réfléchirons en particulier aux nombreux cadeaux de notre Père Céleste aimant. J'espère que nous recevrons ces dons avec l'émerveillement, la reconnaissance et l'enthousiasme d'un enfant. Mon cœur s'attendrit et est plus chaleureux lorsque je pense aux cadeaux de notre Père Céleste aimant, bienveillant et généreux. Le don indicible du Saint-Esprit, le miracle du pardon, la révélation personnelle, la paix du Sauveur, la certitude et le réconfort que la mort est vaincue, et bien d'autres choses encore. Par-dessus tout, Dieu nous a donné son Fils unique, qui a sacrifié sa vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avons-nous reçu ces dons avec une humble reconnaissance, avec joie, ou les rejetons-nous par orgueil ou par un faux sentiment d'indépendance? Ressentons-nous l'amour de notre Père Céleste exprimé par ces dons? Les recevons-nous d'une manière qui approfondit notre relation avec le dispensateur du don? Ou sommes-nous aussi distraits que nous ne remarquons même pas ce que Dieu nous donne tous les jours? Nous savons que Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais n'aime-t-il pas aussi un bénéficiaire bon, reconnaissant et joyeux? À quoi sert-il à un homme qu'un don lui soit accordé s'il ne reçoit pas le don? Voici, il ne se réjouit pas de ce qui lui est donné, ni ne se réjouit de celui qui fait le don. Que nous ayons passé 9 ou 90 Noël, nous sommes néanmoins tous des enfants, les enfants de notre Père Céleste. Pendant cette période de Noël, nous pouvons donc éprouver l'émerveillement d'un enfant. Nous pouvons dire, « Mon cœur déborde de joie et je me réjouirai à cause de mon Dieu, le dispensateur de tout bon don. J'élève ma voix avec vous et avec tous ceux qui désirent suivre le Christ pour louer notre Dieu puissant pour le précieux don de son Fils. Je prie pour qu'en cette période de Noël et toujours, nous voyons le don merveilleux de la naissance du Fils de Dieu avec les yeux bénis d'un enfant. Je prie pour qu'en plus de faire de bons cadeaux, nous nous efforcions de devenir des bénéficiaires bons et reconnaissants. Si nous agissons ainsi, l'esprit de Noël élargira notre cœur et augmentera notre joie à l'infini. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
À Noël, nous célébrons le don parfait que notre Père Céleste a fait en son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, le Sauveur du monde. En souvenir de ce don suprême, la saison de Noël devient pour la plupart d'entre nous l'occasion de trouver de la joie en donnant à notre prochain. Vous et moi avons appris par expérience à quel point cela peut être difficile. En 1970, j'avais 3 jeunes fils. Comme beaucoup de parents novices, je travaillais dur pour subvenir aux besoins d'une famille grandissante. 2 jours après Noël, il fallait que je parte pour un long voyage d'affaires, laissant à ma femme, Kathleen, le soin de divertir les garçons pendant leurs vacances scolaires. Sachant que pendant mon absence, leur bonheur dépendrait des beaux cadeaux de Noël avec lesquels ils pourraient jouer, nous avons décidé de les choisir soigneusement. À notre fils aîné, qui avait 7 ans, nous avons offert un baromètre qui donne des prévisions météo. Nous avons découvert qu'il fallait faire de l'assemblage. Mon fils et moi avons entrepris l'assemblage de ce beau baromètre tout neuf. Nous avons étalé des dizaines de pièces et étudié soigneusement les instructions complexes de montage. Quelques heures plus tard, il me paraissait évident que bien que nous ayons assemblé correctement toutes les pièces, quelque chose n'allait pas dans le mécanisme qui faisait monter et descendre le liquide de l'instrument. Je me suis efforcé de dissimuler mes doutes à mon fils. Mais plus tard dans la nuit, une fois qu'il était couché, j'étais tellement contrarié que j'ai brouillonné dans mon journal une lettre de plainte au fabricant de l'appareil. Voici un extrait de cette lettre que je n'ai jamais envoyée. Notre fils est très heureux de son baromètre. Il a 7 ans et est convaincu qu'une chose aussi belle ne peut que fonctionner. J'espère que la météo ne changera pas avant que je reçoive votre réponse, parce que je ne me vois pas monter en cachette et tromper mon fils en réglant l'appareil manuellement. Pas plus que je n'aimerais qu'il perde confiance en votre baromètre. S'il vous plaît, dites-moi comment le faire marcher. Ce n'est pas votre crédibilité qui en pâtirait, mais la mienne, à moins que vous ne m'aidiez. L'aide humaine n'est pas arrivée à temps pour que ce cadeau de Noël fonctionne. Mais notre fils, qui est maintenant père, se souvient de l'amour que nous avons ressenti pendant que nous nous aidions mutuellement. Et il ressent encore la foi que nous avions dans l'ordre infaillible de la création par Dieu de la terre et de l'atmosphère qui rend possible la prévision du temps. Cette foi n'a pas été entamée par nos efforts désespérés pour faire fonctionner un baromètre. Nous avons appris ce que seule l'expérience enseigne. Pour réussir à donner de la joie à Noël, il nous faut de l'aide. On y parvient rarement par un effort solitaire. Et c'est le fait de joindre nos efforts à d'autres personnes qui diffuse la joie et la rend plus durable. Et le plus important est peut-être que le fait de faire preuve de foi au Sauveur, Créateur et source de tout bonheur durable, entraîne l'amour pur de Dieu, qui est le plus grand de tous les dons et la source sûre d'une joie durable. Cette réalité s'est enracinée profondément dans notre cœur lors d'une période de Noël, des années après notre aventure avec le baromètre. Ce Noël-là, j'ai décidé de concevoir et de construire un coffre au trésor en bois pour ma femme. J'ai eu besoin de l'aide généreuse de nombreuses personnes qui avaient les outils et les compétences qui me manquaient. J'ai travaillé avec elles pendant des semaines. J'avais aussi besoin de l'aide du Saint-Esprit pour découvrir comment faire, pour que ce cadeau suscite l'amour et la foi en l'Évangile. Sur le couvercle, j'ai gravé le monogramme de notre famille. Sur le devant, j'avais mis deux panneaux. Sur l'un d'eux, j'avais gravé mes initiales, et sur l'autre, celles de ma femme. Le coffre ne pouvait être déverrouillé qu'à l'aide de deux clés différentes. Une pour la serrure à côté de mes initiales et l'autre pour la serrure à côté des initiales de ma femme. Aujourd'hui, nous utilisons ce coffre pour les trésors de famille. Depuis ce Noël où il a été placé sous le sapin, chaque fois que nous le voyons, notre cœur et notre esprit sont remplis d'amour l'un pour l'autre et pour le sacrifice du Sauveur qui permet au mariage et à la famille d'être éternel. Il est maintenant rempli de photos de famille et de partitions de Noël. Et il a trouvé sa place près du vieux piano dans notre salon. Ce cadeau que j'ai fabriqué a suscité un sentiment d'amour pour la famille et pour le maître. De temps en temps, je revois les personnes qui m'ont aidé à le fabriquer. Et je les remercie encore. Je peux alors ressentir la joie que nous avons éprouvée en créant ce cadeau d'amour et ce symbole de l'amour que nous partageons pour le Sauveur. Je vois la joie dans le sourire de mes amis, comme autrefois, quand nous avons fabriqué le coffre. Les expériences pendant la saison de Noël nous apprennent que nous partageons cette joie en créant et en offrant même de simples cadeaux d'amour. Par exemple, beaucoup d'entre vous ont aidé un enfant à apporter des biscuits à des personnes, particulièrement seules à Noël. Pour les personnes qui reçoivent ce modeste cadeau d'un enfant, cela peut valoir autant que de l'encens. Un enfant apportant ce cadeau peut leur rappeler les mages venus d'Orient en apportant des présents pour le Sauveur. Celui qui donne et celui qui reçoit peuvent se souvenir du Christ et ressentir de l'amour et de la gratitude. Les jeunes gens et jeunes filles de l'Église, avec leurs dirigeants, peuvent faire des dons d'amour et de témoignages dans les fonts baptismaux de nos temples. La proximité d'un plus grand nombre de temples donne la possibilité à un plus grand nombre de ces jeunes de donner et de le faire plus souvent. Les évêques et dirigeants avisés de ces jeunes les aident par des encouragements. Certains même se joignent à eux pour le service dans le temple. Par leurs dons, ils partagent tous la bénédiction de purification rendue disponible par le Sauveur aux personnes qui n'ont pas été en mesure de recevoir ce don de leur vivant. Un nombre grandissant de missionnaires sont associés avec leurs collègues au Sauveur pour offrir le don de la vie éternelle. Grâce au changement de limite d'âge pour le service missionnaire, ils seront plus nombreux à ressentir la joie de transmettre ce don inestimable. Les missionnaires offrent aussi un exemplaire du Livre de Mormon à toutes les personnes qu'ils rencontrent. C'est un don d'amour et de témoignage, créé par l'inspiration de Dieu aux prophètes fidèles à travers les siècles. Le Sauveur avait besoin de ses prophètes pour créer les dons de témoignage dans le Livre de Mormon, et il a besoin des missionnaires pour le répandre. Les familles aussi offrent des dons inestimables d'amour et de témoignages à l'époque de Noël par la musique et par les mots. Quand j'étais jeune, nous nous rassemblions avec ma famille autour de notre piano Winkler, maintenant vieux de plus de 100 ans et très désaccordé. Ce piano est dans notre salon, à côté de notre coffre à trésors. C'est toujours un objet de famille précieux. Ma mère y tenait parce que c'était un cadeau de son mari, à une époque où ils étaient pauvres. Mes parents ont connu la pauvreté et étaient donc économes. Nos cadeaux de Noël étaient modestes, mais ma mère avait une très belle voix de soprano. Elle jouait du piano à Noël et nous dirigeait pour chanter des chants de Noël et des cantiques sacrés. Je ne sais pas si elle considérait qu'elle nous invitait à partager un don durable. Bien que j'étais jeune, j'ai ressenti une joie inexprimable en chantant ces chants. La musique remplissait notre petite maison d'un esprit de paix. Je ressentais non seulement l'amour de ma mère, de mon père et de mes deux frères, mais aussi celui de mon Père céleste et du Sauveur, Jésus-Christ. J'ai ressenti que l'amour que j'éprouvais alors était quelque chose que j'avais connu avant cette vie dans le monde des esprits. Je voulais plus que tout le ressentir un jour dans mon futur foyer. Je voulais vivre de manière à pouvoir retourner avec une famille qui serait la mienne dans notre foyer céleste, où je savais que mon Père céleste et le Sauveur attendraient. Aujourd'hui, quand je vois le coffre à trésors et ce piano, des souvenirs d'amour pour ma famille et d'amour du Sauveur me submergent. Quand nous chantons en chœur, en famille, en classe et écoutons ce soir ensemble, les chants de Noël nous rappellent nos cris de joie quand nous avons appris que nous pourrions venir sur cette terre et avoir un Sauveur pour nous racheter. Un jour, nous chanterons ces chants en compagnie des armées célestes. Je prie pour que l'Esprit nous accorde à tous, en ce Noël et dans les années à venir, le pouvoir d'offrir ces dons d'amour et du témoignage de Jésus-Christ et de son évangile rétabli. Je sais que l'Esprit peut nous inspirer des façons simples et diverses de donner de l'amour, de la foi et de la joie pendant cette période de réjouissance. Je témoigne que Jésus-Christ est le Fils littéral de Dieu et le Sauveur du monde. Il est le don parfait de notre Père céleste aimant. Maintenant et à tout moment, notre Sauveur nous invite à le rejoindre, lui et d'autres, pour offrir le don inestimable de la joie. Je prie pour que nous le fassions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous remercions le chœur du Tabernacle et l'orchestre de Temple Square pour la musique merveilleuse qui a amené l'esprit de Noël dans notre cœur. Nous saluons aussi les efforts des personnes qui ont apporté leur aide pour que cette veillée puisse avoir lieu. Nous allons maintenant avoir le plaisir d'entendre notre prophète bien-aimé Thomas Monson. À la fin des propos du président Monson, le chœur terminera la réunion en chantant « Aimé de tous », ce cantique « Douce nuit, sainte nuit ». Sous la direction de frère Wilberg, l'assemblée se joindra au chœur pour chanter la troisième strophe. Ensuite, Matthew O. Richardson, deuxième conseiller dans la présidence générale de l'école du dimanche, fera la prière de clôture. Le président Manson.
Brothers and sisters,
mes frères et sœurs, quelle belle assemblée vous formez. C'est un honneur chaque année de commencer ma période de Noël avec vous, à l'heure de cette veillée de Noël de la première présidence. Je vous exprime mon amour à tous, que vous soyez présents dans ce bâtiment ou que vous soyez à l'écoute par d'autres moyens. La période de Noël, avec sa signification et sa beauté particulière, provoque souvent une larme, inspire le renouvellement d'un engagement envers Dieu et apporte, pour emprunter les paroles du beau chant Calvary, le repos et la paix de l'âme aux personnes qui sont fatiguées. Mais il est facile de se laisser prendre par la pression de cette période et peut-être de perdre cet esprit particulier que nous essayons d'obtenir. Il arrive particulièrement à beaucoup d'entre nous d'en faire trop. Les raisons peuvent en être un trop grand nombre d'activités de Noël, trop de choses à manger, trop d'argent dépensé, trop d'attentes et trop de tensions. Souvent, nos efforts de la période de Noël nous laissent stressés, vidés et épuisés, alors que nous devrions ressentir les joies simples de la commémoration de la naissance de notre Sauveur. La vraie joie de Noël ne se trouve pas dans la précipitation et la bousculade pour en faire plus, ni dans l'achat de cadeaux. Nous trouvons une joie réelle lorsque nous mettons le Sauveur au centre de cette période. Nous pouvons penser à lui et appliquer ses principes en faisant ce qu'il veut que nous fassions ici sur la terre. En cette période, tout particulièrement, suivons son exemple en aimant et en rendant service à notre prochain. Une partie de notre société aspire désespérément à une manifestation d'amour. Ce sont les personnes vieillissantes, surtout quand elles souffrent des affres de la solitude, le vent glacial, des espérances perdues et des rêves disparus, sifflent dans les rangs des personnes âgées et de celles qui approchent du versant descendant de la vie. Richard L. Evans a dit il y a quelques années, et je le cite, « Ce qu'il leur faut, dans leur solitude, de leur vieillesse, c'est du moins en partie ce dont nous avions besoin dans les années incertaines de notre jeunesse, le sentiment d'appartenance, la certitude d'être désiré, les prévenances affectueuses de mains et de cœurs aimants, pas simplement les formalités du devoir, pas simplement une place dans un bâtiment, mais une place dans le cœur et la vie de quelqu'un. Nous ne pouvons pas les ramener aux premières heures de la jeunesse, mais nous pouvons les aider à vivre dans la douceur d'un coucher de soleil embelli par notre attention, notre aide et notre amour manifeste et sincère. » Fin de citation. Mes frères et sœurs, l'amour véritable est le reflet de l'amour du Sauveur. En décembre de chaque année, nous appelons cela l'Esprit de Noël. Nous pouvons l'entendre, nous pouvons le voir, nous pouvons le sentir. Récemment, je me suis souvenu d'une expérience de mon enfance, une expérience que j'ai déjà racontée une ou deux fois. J'avais tout juste 11 ans. La présidente de notre primaire, Mélissa, était une vieille dame adorable aux cheveux gris. Un jour, à la primaire, elle m'a demandé de rester pour lui parler. Nous étions donc tous les deux assis seuls dans la chapelle. Elle a mis son bras sur mes épaules et s'est mise à pleurer. Surpris, je lui ai demandé pourquoi elle pleurait. Elle a répondu, je n'arrive pas à ce que les plus grands garçons soient recueillis pendant la période d'ouverture de la primaire. Veux-tu bien m'aider, Tommy? J'ai promis à Mélissa que je le ferai. Cela m'a paru étrange, mais pas à Mélissa. Que cela soit la solution du problème de recueillement à la primaire. Elle était allée à la source du problème. Moi. La solution était l'amour. Les années ont passé. La merveilleuse Mélissa, âgée de plus de 90 ans, vivait dans une maison de retraite au nord-ouest de Salt Lake City. Juste avant Noël, j'ai décidé d'aller rendre visite à ma chère présidente de la primaire. À la radio de ma voiture, j'ai entendu le chant « Écoutez le chant des anges. Gloire au roi qui nous est né. » Je réfléchissais à la visite des rois mages il y a tant d'années. Ils avaient apporté en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. J'apportais seulement en cadeau de l'amour et le désir de remercier. J'ai trouvé Mélissa dans la salle à manger. Elle fixait son assiette de nourriture qu'elle touchait de la fourchette avec sa main âgée. Elle ne mangeait rien. Lorsque je lui ai parlé, elle m'a regardé gentiment, mais d'un air absent. J'ai pris la fourchette et j'ai commencé à la faire manger. Tout en lui parlant de ce qu'elle avait fait pour les garçons et les filles de la primaire. Elle ne semblait pas me reconnaître. Elle n'a pas dit un mot. Deux autres pensionnaires de la maison de retraite me regardaient avec étonnement. Finalement, l'un d'eux m'a dit, « Ne lui parlez pas. Elle ne reconnaît personne, pas même sa propre famille. Elle n'a pas dit un mot depuis qu'elle est ici. » Le repas s'est terminé. Ma conversation à sens unique s'est terminée. Je me suis levé pour partir. En tenant sa main frêle, j'ai regardé son visage ridé, mais beau, et lui ai dit, « Que Dieu vous bénisse, Mélissa. Joyeux Noël. » Contre toute attente, elle leur dit, « Je te connais. Tu es Tommy Monson, mon garçon de la primaire. Comme je t'aime. » Elle a porté ma main à ses lèvres et l'a embrassée avec douceur et amour. Des larmes ont roulé sur ses joues et sont tombées sur nos mains réunies. Ses mains, ce jour-là, ont été sanctifiées par les cieux et bénies par Dieu. Les anges ont effectivement chanté. Les paroles du Maître ont semblé prendre une signification personnelle que je n'avais encore jamais ressentie. « Femme, voilà ton fils. » Et à son disciple, « Voilà ta mère. » Il nous semble entendre l'écho de ces paroles venues de Bethléem. Ah, qui fut donné simplement ce présent merveilleux. Ainsi Dieu bénit les humains en leur ouvrant les cieux. Nul n'entend sa venue dans ce monde pécheur. Mais Jésus entre bienvenu dans les plus humbles cœurs. David O'Mackay a dit, « Le véritable bonheur ne s'obtient qu'en rendant les gens heureux. » L'esprit de Noël nous remplit le cœur d'amour fraternel et d'amitié et nous pousse à de gentilles actions de service. C'est l'esprit de l'Évangile de Jésus-Christ. Fin de citation. Il n'est pas de meilleur moment que cette période de Noël pour nous consacrer tous à nouveau à appliquer les principes enseignés par Jésus le Christ. C'est le moment d'aimer de tout notre cœur le Seigneur, notre Dieu et notre prochain, comme nous-mêmes. Il est bon de se rappeler que celui qui donne de l'argent donne beaucoup, que celui qui donne de son temps donne davantage, mais que celui qui donne de lui-même donne tout. Donnons à Noël son sens véritable. Ce n'est pas simplement une question de guirlandes et de rubans, à moins que nous l'ayons décidé. Noël, c'est l'esprit de don, sans l'idée de recevoir. C'est le bonheur parce que nous voyons la joie chez les gens. C'est l'oubli de soi. C'est du temps pour les autres. C'est le rejet du futile et l'accent mis sur les vraies valeurs. C'est la paix, parce que nous avons trouvé la paix dans les enseignements du Sauveur. C'est le moment où nous comprenons plus profondément que plus il y a d'amour donné, plus il y en a pour les autres. Noël est à la maison et à l'église. Noël est au magasin. Mais vous ne saurez pas ce qu'est Noël s'il n'est pas dans votre cœur. Les cloches peuvent résonner dans la neige et les chants emplirent les airs. Mais le cœur ne frissonnera que si Noël s'y trouve aussi. En avançant dans la glorieuse période de Noël, puissions-nous, comme l'ont fait les rois mages, rechercher une brillante étoile qui nous guidera vers les occasions de rendre service à notre prochain. Puissions-nous tous faire le voyage à Bethléem en esprit, en portant un cœur tendre et attentionné comme cadeau pour le Sauveur. Et puissiez-vous, chacun, avoir un Noël empli de joie. C'est ma prière, au nom sacré et béni de Jésus-Christ. Amen.
Oh.
Our dear and wonderful Father in heaven.
Notre cher et merveilleux Père céleste, c'était une bénédiction d'être réunis ce soir. Nous avons été édifiés par les talents du chœur et de l'orchestre, et nous te demandons de les bénir. Nous avons été particulièrement inspirés par la parole vivante des prophètes voyants et révélateurs qui composent notre première présidence bien-aimée. Nous les aimons et nous prions pour que tu continues de les soutenir dans ton œuvre. Père, nous te demandons de nous fortifier pour mettre en pratique leurs paroles. Nous sommes reconnaissants pour les enseignements que nous avons reçus et qui nous ont édifiés, et nous prions pour qu'ils fassent partie de notre vie. À la fin de cette veillée, nous prions pour que tu nous aides à garder notre esprit et notre cœur ouverts afin de porter notre attention sur notre Sauveur Jésus-Christ, pas seulement en cette période de l'année, mais aussi toutes celles qui suivront. Nous prions et nous te remercions pour toutes ces choses, très humblement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.